Radio Classique, grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Lambert Mende Omalanga. Il est homme politique, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende Omalanga, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors vous préférez que je vous appelle par votre nom ou votre titre? Qu'est-ce qui vous convient le mieux?
Appelez-moi par mon nom, ça me convient le mieux.
D'accord, alors vous êtes notre grand témoin de ce jour. Avec vous, nous parlerons de votre personne, de votre parcours politique et de fonctions que vous assumez actuellement. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement congolais. Nous allons parler aussi d'actualité dans cet entretien. Nous n'en sommes pas encore là, mais commençons par une petite biographie de vous. Qui est Lambert Mende? Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Ben, je suis fils de paysan, puisque je ne suis venu à Kinshasa que pour parachever mon cursus d'études. Je suis né au Sankourou, à Lodja spécifiquement, et j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires dans cette partie du pays, d'où je suis sorti en 1971 pour m'inscrire à la faculté de droit de l'Université nationale du Zaïre, campus universitaire de Kinshasa, d'où je suis parti avec un graduat en droit pour aller en Belgique, où j'ai parachevé ma licence en sciences criminologiques, voilà pour les études.
Donc, vous avez passé votre enfance, toute votre enfance à Lodja, dans la province de Kasaï-Oriental?
C'est exact, entre Lodja, Tumbe et Okolo.
Quels bons souvenirs vous gardez de Lodja?
Énormément de bons souvenirs. Je pense que ça a été une période où notre pays accédait à l'indépendance. J'entrais dans mon adolescence, à ce moment-là, je commençais mes études primaires, et je me souviens quand même d'une période d'abondance. L'agriculture tournait assez bien, nous vivions de la production de nos parents, mon père qui était enseignant, ne manquait pratiquement de rien, et lorsque nous étions à l'internat, je pense que l'internat était approvisionné par les paysans qui vendaient leur production. Bref, c'est avec une certaine nostalgie que je pense à cette époque qui a été perturbée bien sûr à partir de 1963 par les jacqueries populaires lumumbistes. Nous sommes d'une région qui a vu naître Patrice Lumumba, nous sommes les frères de Lumumba au sens biologique du terme, et donc nous avons plongé tête première dans cette contestation de l'ordre néocolonial qui venait d'assassiner notre frère, et nous avons beaucoup souffert de cette guerre-là qui nous ont réellement fait tourbillonner jusqu'à la prise de pouvoir par le dessin Mobutu en 65, qui correspond un peu à mon entrée dans l'enseignement secondaire.
Je comprends bien, vous avez grandi dans de bonnes conditions à Lodja.
Tout à fait, c'était très épanouissant.
Vous n'avez pas donné la date de votre naissance?
Je suis né en 11 février 1953, je viens de compléter mes 58 ans d'âge.
Monsieur Mende, êtes-vous marié?
Oui, je suis marié, bien marié, je suis père de famille.
Et pourquoi vous êtes pour bien marié?
Bien marié.
Il y en a qui sont mal mariés.
Oui, sans problème, dans mon ménage, j'ai 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, parmi lesquels des jumeaux, un garçon et une fille, donc tout est en équilibre.
Comment on le dit, on était là, celui qui a des jumeaux, comment on l'appelle?
C'est Sioa, sa frère de jumeaux.
Ah, d'accord.
Ouais.
Grand témoin. Il est homme politique, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement congolais. Il est aussi président national de la Convention des Congolais Unis, CCU, Lambert Mende Omalanga, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Parlons de votre parcours politique. Votre nom est intimement lié à la politique. Avez-vous fait autre chose que la politique dans votre vie?
Non, je ne me souviens pas. Peut-être que j'étais fonctionnaire à un moment donné, dans une vie antérieure. Entre mes années d'études à Kinshasa et celles de Bruxelles, j'ai eu un break où j'ai travaillé comme fonctionnaire. J'ai un numéro matricule à la fonction publique. J'étais à un moment au ministère même de la fonction publique. On voulait créer un journal de la fonction publique. Vous voyez que j'ai fait les médias déjà à ce moment-là. Puis je suis passé au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, qui s'appelait le quartier général de la JMPR, avant d'aller au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire comme secrétaire de cabinet. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma bourse pour aller compléter mes études en Europe.
Dites-nous, comment vous êtes retrouvé en politique?
Depuis l'université, j'avais déjà des intentions de faire de la politique autrement que ce qui se faisait dans le pays, c'est-à-dire autrement que dans le parti unique qui nous intégrait tous, hein, qui nous mixait ensemble, ce qui fait que j'ai pris très tôt ma carte, j'avais 17 ans et demi, je crois, j'avais pris très tôt ma carte de membre du MNC Lumumba, chez un monsieur qui s'appelait Paul Ekongo, qui militait dans une structure clandestine à l'époque du MNC Lumumba à partir de Lemba, et nous avons souvent frôlé la catastrophe. Monsieur Ekongo ira même en prison, mais il nous protégera, il ne nous dénoncera pas, et lorsque je me suis retrouvé à Bruxelles au début des années 80, j'ai ouvertement annoncé mon engagement politique.
C'était votre départ?
Oui, c'était le point de départ, les années 80, mon chef s'appelait François Lumumba, le fils de
Émile Lumumba.
Oui, c'est lui qui était mon premier chef de parti dans le MNC Lumumba.
Et vous aviez un parrain politique?
Un parrain, si on a besoin d'un parrain à ce moment-là, c'est Paul Ekongo, le défunt Paul Ekongo, qui a été mon parrain, celui qui m'a mis le pied à l'étrier.
Dans les années 80, Lambert Mende, vous animiez sur les antennes de la Voix du Zaïre une émission consacrée aux activités de la jeunesse, mouvement populaire de la révolution et jeune père.
C'est exact, c'est mon passage au ministère de la jeunesse et des sports que je viens d'indiquer, d'où j'étais chargé justement de ce bureau de l'information pour la jeunesse. Et c'est à ce titre que nous avions un programme à la, on l'appelait à l'époque Office Zaïrois de Radio Diffusion et de Télévision, aux EDRT. Donc c'était au titre du ministère de la jeunesse et des sports.
Et là, c'était après votre passage dans le mouvement national congolais, MNC?
Oui, je ne le faisais pas après, je le faisais parallèlement. J'étais clandestinement dans le MNC. On ne pouvait pas être dans un parti de l'opposition puisque tout le monde...
Mais ça ne vous a pas créé des problèmes de l'autre côté, dans votre parti, dans le MNC?
Non, pas du tout, parce que le MNC recrutait même auprès des gens qui étaient même dans l'armée, auprès des gens qui étaient dans différentes structures. Tout était impair, vous ne pouviez recruter personne qui n'était pas dans le MPR, puisque même les fœtus dans le ventre de leur maman étaient MPR. Donc on nous recrutait, on m'a recruté moi, quand je travaillais déjà dans le système du parti État, le parti totalitaire.
Vous étiez à la fois lumumbiste et mobutiste?
Non, être mobutiste c'était quelque chose qui était...
Vous étiez très actif dans le mouvement des jeunes?
J'étais un fonctionnaire qui accomplissait sa mission. J'étais au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé du bureau d'information. Et tout individu respirant, vivant au Congo, au Zaïre, à l'époque, était dans le parti mobutiste. Il ne faut pas dire que quelqu'un pouvait ne pas être mobutiste, c'est exclu.
Parlez-moi de vos relations avec le président Mobutu. Comment étaient vos relations?
Je ne connaissais pas le président Mobutu, sauf médiatiquement, à la télévision, lorsqu'il descendait des nuages et tout. C'est lorsque je suis allé en Europe, revenu en 1982 en vacances, mais militant toujours clandestinement ici au Congo, que je me suis fait arrêter par les services de sécurité. J'ai passé 49 jours...
Pour quelle raison?
Pour activisme politique. On me soupçonnait d'avoir été envoyé par Ngouz à Karibonde pour s'aimer l'insécurité à Kinshasa, alors que je ne connaissais même pas M. Ngouz. À l'époque, mon chef, c'était François Lumumba, mais ils n'ont même pas pu découvrir que je travaillais dans le mouvement Lumumbiste. Bref, j'avais pu échapper à cette interpellation. J'ai pu m'empêcher d'être condamné et je suis rentré en Europe où j'ai rendu public mon engagement, où je me suis lancé dans l'action médiatique Lumumbiste, cette fois-ci, en créant le journal Uhuru et en intervenant chaque fois que l'occasion se présentait dans les médias, tant en Belgique, en France qu'ailleurs. C'est ainsi que le président Mobutu a pu me connaître, par les médias aussi. Et que lorsque nous avons décidé de rentrer au Congo en 1990, le président Mobutu a fait une sorte de mise en scène, de me faire cueillir à l'aéroport par ses services, de me recevoir à sa propre demande, je n'ai jamais demandé une audience puisque je ne le connaissais pas, et de médiatiser cette audience comme pour donner une certaine consistance à son schéma de réconciliation avec l'opposition. Mon premier contact avec lui date de ce mois-là d'octobre 1990, lorsque je suis revenu au pays.
Et vous cherchez pourquoi le président Mobutu?
Pour donner une consistance justement à son schéma de réconciliation. Il avait annoncé qu'il se réconciliait avec l'opposition. Il voulait faire une conférence à l'époque qu'on l'appelait constitutionnelle et que les opposants à l'extérieur n'avaient pas de raison de douter, pas plus que les gouvernements étrangers n'avaient pas de raison de douter de sa volonté de se réconcilier avec l'opposition. J'ai été son instrument pour prouver cela parce qu'il va appeler nos amis belges qui m'avaient donné une sorte de fiction de nationalité belge pour me protéger pendant le séjour que j'ai fait ici pour voir si c'était sérieux. Il a appelé le ministre Skens à l'époque qui était ministre des Affaires étrangères qui m'avait octroyé cette nationalité plus ou moins fictive pour dire cessez de me prendre pour ce que je ne suis pas, j'ai accueilli votre protégé. C'est Skens qui m'a répété cela et j'ai compris les motivations de Mobutu pourquoi il m'avait reçu.
Je voudrais savoir, mais pourquoi vous êtes revenu au pays après avoir fait ville en Europe?
La conférence nationale, on venait de l'annoncer. Nous voulions tous pousser la démocratisation dans le bon sens.
Et vous vous êtes fait remarquer vraiment pendant cette conférence nationale, l'honneur m'aider.
Comme quoi j'ai atteint mon objectif, qui était effectivement de pousser les choses. Bon, nous ne les avons pas poussées jusqu'au bout, parce que Mobutu n'est pas parti, mais au moins nous avons fait naître une nouvelle génération politique, qui n'était pas une génération issue de la génération de l'après-indépendance.
Alors c'était une lutte maintenant aux côtés de l'opposition.
C'était une lutte déjà obtenue à la conférence nationale, ça a été quelque chose qui a été obtenu grâce à des pressions qui ont été faites par l'opposition, qu'elle soit ici au Congo, c'est-à-dire à l'époque, que ce soit à l'extérieur, et avec le soutien des forces démocratiques de par le monde entier.
Pendant cette période-là, vous étiez proche, quand même assez proche, d'Étienne Tshisekedi, mais pourquoi par après vous vous êtes désolidarisé de lui?
Oh, c'est une longue histoire. Comme Lumumbiste, j'avais soutenu activement le schéma de M. Tshisekedi, Premier ministre de la Conférence nationale souveraine. Je me suis payé une dispute avec d'autres frères Lumumbistes, le Palou, par exemple, qui se tenait Thomas Kanza. Bref, moi, j'ai pris mon parti pour M. Tshisekedi. J'ai même navigué avec lui dans son premier gouvernement comme ministre de la Communication déjà.
Un gouvernement qui n'était pas reconnu.
Qui n'était pas reconnu par le président Mobutu.
Mais
reconnu par le monde entier puisque j'aurais l'occasion de faire une tournée de 8 mois en Europe, en Asie, en Amérique pour plaider la cause du gouvernement de la Conférence nationale souveraine. Mais nous avons constaté par la suite que le numéro 1 de cette légitimité issue de la Conférence nationale souveraine n'avait pas réussi à maintenir la cohésion de ses propres troupes. Il a commencé plus ou moins à se livrer sur ses partenaires que nous étions à une sorte de gestion peu démocratique, en tout cas de l'ensemble du mouvement, ce qui a créé pas mal de défections et finalement, les uns après les autres, tout le monde est parti. En tout cas, nous avons renoncé à l'alliance et nous sommes revenus à nos partis politiques.
Vous avez été plusieurs fois ministre dans ce pays, notamment vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, rapporteur du Sénat pendant la transition, assez riche parcours politique quand même. Hein.
Ah oui, j'en suis très fier. Parce que ça démontre que mes compatriotes, quel que soit le cadre dans lequel nous nous trouvons, font confiance en la petite expérience, dans les petites connaissances que nous avons pu accumuler et à notre savoir-faire. Donc, moi, je peux que me féliciter d'avoir attiré l'attention de ceux d'entre nous qui avaient la décision au cours de ces occasions historiques.
Après le régime Mobutu, il y a eu l'AFDL. Quelles étaient vos relations avec Laurent Désiré Kabila?
Laurent Désiré Kabila, d'abord, a été incompris par nous qui étions ici, dans la mesure où nous étions tous plongés dans le schéma réformiste. Nous tenions absolument à faire partir Mobutu pacifiquement. Nous pensions que la chose était possible. Et voilà que surgit à l'Est des frères à nous, des compatriotes qui veulent la lutte armée. Il faut dire que dans un premier sursaut, nous n'étions pas d'accord. Il y a eu même des manifestations ici, dans cette ville d'étudiants, qui s'opposaient à ce schéma militariste qui nous faisait peur. Mais par la suite, on s'est rendu compte
que... Et vous étiez très opposé à l'endormement.
Ah bien sûr, j'étais dans le gouvernement de M. Kengo jusque, je pense, 2 mois avant. Notre gouvernement est tombé 2 mois avant que l'AFDL n'arrive. Et nous pensions que le schéma réformiste avait ses chances. Comme beaucoup de gens ici à Kinshasa, mais nous nous trompions parce que nous trompions sur les capacités de ténébilité du président Mobutu qui tenait à s'accrocher à tout prix. Et lorsque nous nous sommes rendus compte de cela, nous avons apporté notre appui au régime de M. Kabila, à la lutte armée. Je suis même resté 15 mois ici, essayant d'entrer en contact avec eux pour apporter ma contribution, mais en vain, jusqu'au moment où...
Le régime ne voulait pas de vous,
absolument, absolument. Pas ce régime qui ne voulait pas de moi, il y avait des éléments dans ce régime avec lequel j'avais personnellement eu maille à partie. Vous savez, j'étais en exil en Europe pendant 10 ans. Beaucoup de gens qui accompagnaient M. Kabila ont été avec moi en Belgique, pas M. Kabila qui lui était en Tanzanie, et lorsque vous vivez ensemble, il y a des petites querelles personnelles, on a voulu se venger de cela, j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises et je suis parti rejoindre ceux qui avaient décidé de combattre Kabila parce que j'avais l'impression que c'était la seule façon de sauver ma vie.
Vous parlez du RCD Goma ?
Absolument.
Vous avez décidé de rejoindre le RCD Goma parce qu'on ne venait pas de vous par le régime en place, c'est ça ?
Parce qu'on a voulu m'assassiner ici à Kinshasa et que j'estimais qu'il était de mon droit de faire de la légitime défense.
Vous rejoignez le RCD Goma en moins d'une année, vous quittez ce parti.
Oui, je fais à peu près 10 mois à Goma, le temps de me rendre compte, à la faveur notamment dans la guerre qui a éclaté à Kisangani entre Ouganda et Rwanda, que nous étions totalement manipulés, nous les Congolais qui étions là-bas et qui pensions y être allés avec des revendications démocratiques, avec des revendications nationalistes. Nous étions manipulés par des volontés extérieures et je n'ai pas attendu d'être en dehors de Goma pour le dénoncer. J'ai tenu une conférence de presse à Goma où j'ai dénoncé cette manipulation et le soir même, j'étais mis aux arrêts.
Attendez, vous avez rejoint le RCD Goma parce que vous étiez contre le régime Kabila le Père.
Oui.
Vous avez rejoint le RCD Goma sans connaître les ambitions de ce mouvement.
Oui, vous savez, lorsque vous êtes au fond d'un trou, vous n'avez pas besoin de savoir qui est dehors. Dès qu'on vous tend la main, que ce soit le diable ou Saint-Pierre, vous prenez la main qui se tend pour sortir du trou. C'était la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et si vous découvrez que la main qui vous a secouru était la main du diable, eh bien, il n'est pas interdit que vous essayiez de vous en débarrasser. Voilà ce qui s'est passé.
Et lorsque vous avez été suspendu du mouvement, vous avez regagné Bruxelles. Hein?
Le gouvernement m'a arrêté, madame. Suspendu, c'est peu dire. Donc, je me suis évadé de prison pour rejoindre Bruxelles. C'est ça qu'il faut dire.
Voilà. Et dès là, le pouvoir, le régime actuel en place vous sollicite.
Musée Laurent Désiré Kabila m'a invité ici. C'était un voyage secret. J'ai rétabli les contacts. Nous avons géré ce malentendu, ce regrettable malentendu de 1998 ensemble avec Musée Laurent Désiré Kabila, 3 mois avant sa disparition. J'ai effectué un séjour inoubliable de 5 jours ici. Peu de gens en étaient informés, bien qu'il y ait eu une fuite chez RFI, mais le président Musée Laurent Désiré Kabila, je l'ai vu 5 fois pendant les 5 jours et ce contentieux a été réglé et croyez-moi, c'est avec une profonde douleur que j'ai appris sa mort au moment où j'avais un contact au moins quotidien avec lui à partir de Bruxelles où je me préparais à revenir de manière définitive à sa demande.
Aujourd'hui, vous êtes un proche du président Joseph Kabila.
Naturellement.
Comment vous pouvez nous expliquer cela puisque lorsque ces derniers accèdent au pouvoir en 2001, vous êtes opposant, membre du RCD.
Mais je viens de vous dire que j'avais déjà réglé ce problème avec son prédécesseur. Et...
avec le père de l'élément, oui. Le fils accédé au pouvoir, vous étiez dans le RCD Goma, donc vous pouvez...
Non. Après la prison, je ne suis plus rentré au RCD Goma. Donc quand j'ai quitté la prison, lorsque le président Laurent Désiré Kabila m'invite à venir ici en octobre 2000, je n'avais plus rien à voir avec le RCD Goma, sinon je ne serais pas venu ici. Donc j'étais déjà rentré dans ma formation politique, celle que je n'avais jamais quittée, et donc je n'étais plus dans le RCD Goma. Et je suis allé aux négociations avec des dissidents du RCD Goma, le RCD KML de Moussanamoussi. Nous étions des dissidents du RCD Goma.
Instabilité politique ?
C'est la chanson que nous entendons tout le temps, mais si c'est cela de l'instabilité politique, alors tout individu qui entre dans un gouvernement de coalition pour représenter son parti et qui... à la faveur d'un autre cabinet qui se forme, va représenter son parti dans cet autre gouvernement de coalition, est instable. À aucun moment, je n'ai quitté le MNC Lumumba, qui s'appelle originel, qui s'appelle aujourd'hui Convention des Congolais Unis, donc je suis l'initiateur. Ce sont les coalitions politiques. J'ai commencé ma carrière politique comme Lumumbiste, je vous ai dit, à 17 ans, j'en ai 58 aujourd'hui, je suis toujours Lumumbiste.
Aujourd'hui, vous allez créer votre propre parti politique.
C'est un parti Lumumbiste.
Ah bon.
Absolument. Convention des Congolais Unis, anciennement Mouvement National Congolais Lumumba originel. Pourquoi nous avons quitté cette dénomination ? Nous ne voulions pas nous abîmer dans une querelle de dénomination avec des gens qui sont nos frères idéologiques. Tout le monde se dispute le label MNC. Nous l'avons abandonné et nous avons choisi ce nouveau label, Convention des Congolais Unis, qui est un parti lumumbiste, et nous avons été bien inspirés parce que nous sommes l'un des rares anciens partis du tronc commun MNC, Lumumba, à avoir des élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans des assemblées provinciales. Je pense que c'est une démarche qui nous a plutôt porté bonheur.
chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
En politique, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement congolais, il est aussi président national de la Convention des Congolais Unis, CCU, Lambert Mende Omalanga, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. En février 2007, vous êtes nommé ministre des hydrocarbures dans le gouvernement Kizenga.
Oui.
Il y a eu remaniement en octobre 2008, vous êtes nommé ministre de la communication.
Tout à fait.
Une certaine opinion estime que c'est une punition quand vous avez infligé par rapport à un contrat qui a été mal négocié dans la province orientale, en Ituri précisément.
C'est une drôle de punition. Que celui qui voudrait vous punir ne vous chasse pas du gouvernement, mais vous affecte à un poste où, aujourd'hui, en termes de préséance, je suis plus élevé même que là où je me trouvais lorsque j'étais ministre des hydrocarbures. C'est très curieux. Non, je pense qu'on a récompensé plutôt ma loyauté, on a récompensé mon sens du sérieux, parce qu'on m'a même élevé dans la préséance gouvernementale. Je pense que ça, c'est quelque chose d'objectif. Tout le reste, c'est des commentaires.
Aujourd'hui, vous êtes le porte-parole du gouvernement.
Tout à fait. Et on nomme pas comme porte-parole du gouvernement quelqu'un qu'on veut punir.
Comment se porte le gouvernement congolais?
Le gouvernement se porte bien. Le gouvernement dirige le pays. Le gouvernement est en train de résoudre les problèmes auxquels personne ne s'est attaqué depuis l'indépendance. Les infrastructures, la remise en état du système d'éducation, la gratuité de l'enseignement primaire, la lutte contre le VIH-SIDA, les problèmes du genre, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est autant de défis auxquels le gouvernement se trouve confronté et qu'il est en train de relever aujourd'hui.
Ça fait quand même longtemps qu'on vous a vu sur les petits écrans pour nous faire le compte-rendu des conseils des ministres sur les
Un gouvernement ne se réduit pas à des conseils des ministres, à des comptes rendus. Le gouvernement fait d'abord la gestion quotidienne du pays.
Et je pense que
le pays est géré. Le pays est géré au quotidien. Pour le reste, c'est un problème de calendrier, un problème
de
disponibilité. Mais la population sait ce qui se dit chaque fois qu'il y a un problème.
Par la presse?
Mais oui, je communique avec la population par votre canal, par la presse. Même lorsque nous faisons des réunions du conseil,
c'est toujours par vous.
Non, je la convoque souvent. Régulièrement, au moins deux fois par mois, elle est convoquée au ministère, il y a une salle pour ça, et nous discutons de tous les points. Et vous ne vous gênez jamais de nous poser des questions sur les points que nous aurions oubliés. Donc nous communiquons, nous informons la population de tout ce qui se passe. Nous sommes bien obligés de le faire.
Si je comprends bien, vous venez de le dire tout à l'heure, un gouvernement ne se réduit pas au conseil des ministres dans sa section plus.
Non, il se tient quand c'est nécessaire, quand ceux qui doivent tenir le conseil sont disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous savez
que le président et le premier ministre courent à travers le pays, à travers le monde, pour des problèmes qui nous talonnent maintenant, avec la crise financière internationale, les problèmes de pacification dans les Kivu, etc. Et nous avons eu un conseil, je pense, la dernière fois, il y a un mois et demi, deux mois. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne gère pas le pays, parce qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres, non? C'est une fausse perception.
Mais les derniers, c'était nous quand, monsieur?
Un mois et demi, deux mois, je ne saurais pas vous dire, comme ça, de mémoire.
Mais dernièrement, il y a eu comme une sorte de dysfonctionnement au sein du gouvernement.
Oui, quelles sont les preuves?
Oui, un ministre qui prend une décision, le premier ministre qui casse la décision, mais comment on peut expliquer ça s'il y a des conseils des ministres qui se tiennent?
Mais il est curieux qu'on considère le fait qu'un premier ministre rapporte une décision d'un ministre comme un dysfonctionnement. Ça serait le contraire.
Comment on peut qualifier cela?
Mais c'est le fonctionnement normal d'un gouvernement avec une autorité hiérarchique du premier ministre et du président. Lorsqu'un ministre comme moi prend une décision qui pénalise les gens qui travaillent pour une administration, prenons la RTNC, je suspends quelqu'un qui est à la RTNC mandataire et que ce quelqu'un estime que ses droits ont été bafoués dans un état de droit, est-ce qu'il a le droit de s'adresser à quelqu'un pour attaquer ma décision? J'ai dit dans un état de droit, oui. Et à qui doit-il s'adresser? Pas à moi, pas à mon chef de cabinet. Il s'adresse à mon chef qui a l'autorité pour réexaminer ma décision. C'est le premier ministre, c'est le président de la République. Et lorsque le premier ministre ou le président reçoivent un recours contre une décision prise par un ministre, ils n'ont que deux possibilités. Soit ils confirment la décision du ministre, soit ils l'infirment, c'est-à-dire qu'ils reviennent là-dessus. C'est leur pouvoir. Et lorsque celui qui a introduit un recours a raison, mais le premier ministre casse la décision après avoir écouté le ministre.
Mais le ministre, avant de
faire
la décision, ne passe pas par le premier ministre.
Pas nécessairement, il n'est pas obligé. Il y a des compétences qui sont réservées au ministre, mais le premier ministre peut confirmer confirmer ou infirmer, c'est ça son rôle. C'est le chef hiérarchique du gouvernement. Il ne faut pas appeler dysfonctionnement ce qui n'est pas un dysfonctionnement.
Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. Alors, certaines personnes vous accusent de dire tout et son contraire face au micro et aux caméras, de donner l'impression de cacophonie sur plusieurs sujets d'actualité qui concernent le pays. Vous avez déjà entendu ça, monsieur Mendelon?
Non, ça, je n'ai pas entendu. J'ai entendu que je suis un perroquet. Quelqu'un à l'UDPS l'a dit. J'ai entendu que je dis des choses en dehors de ce que le gouvernement a dit, mais je n'ai pas encore entendu dire que
je suis cacophonique
vis-à-vis de moi-même. Alors, peut-être que c'est un fait, je pourrais répondre, mais comme ça, c'est une proclamation, c'est tout.
Bon, c'est un exemple.
C'est un pontif.
Je vais donner
un exemple.
Vous tenez votre point de presse, vous annoncez que telle personne a été, je prends le cas d'Oudjani. Oudjani a été arrêté, il sera extradé dans peu de jours, on va le présenter à la population et puis c'est ce qu'aujourd'hui plus rien.
Alors, il y a deux choses. Un, Oudjani a été arrêté. Mais Oudjani a été arrêté. Personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'Oudjani est libre. Parce que je sais où il est. Le gouvernement sait qu'il est en prison au Congo-Brazzaville. Deuxième chose, Oudjani va être extradé. Je n'ai pas dit qu'Oudjani a été extradé.
Va être extradé. Donc, ça veut dire
qu'il y a un gouvernement autre que le nôtre qui le détient. Nous ne pouvons pas, nous, détenir quelqu'un et l'extrader vers nous. Le français veut bien dire ce qu'il dit. Quand quelqu'un vous dit que quelqu'un va être extradé, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement étranger qui n'est pas le nôtre, qui le détient, et dont dépend la décision d'extradition. C'est-à-dire que nous avons introduit une demande d'extradition, mais ce gouvernement-là, du Congo-Brazzaville en l'espèce, est-il sous nos ordres? A-t-il encore compétence pour étudier ce que nous avons demandé? A-t-il le droit de prendre le temps qu'il estime nécessaire pour y répondre? Je réponds oui à toutes ces trois questions. Alors, en quoi serait-ce un mensonge? Nous avons dit, Oudjani a été arrêté, il a été arrêté. Nous avons dit, Oudjani va être extradé, ce qui est vrai,
dans
qu'il n'a pas.
Dans quelques jours, nous allons vous le présenter.
Je n'ai pas dit dans très peu de jours. J'ai dit, quand il sera extradé, nous allons vous le présenter. Je ne peux pas dire dans très peu de jours parce que le gouvernement congolais de Kinshasa ne contrôle pas le gouvernement congolais de Brazzaville. N'importe quel intellectuel peut comprendre cela. Mais vous savez, les gens passent leur temps à faire de la théâtralisation, à transformer les mots que leurs adversaires disent pour se donner raison. Vous comprenez très bien que j'ai quand même une certaine maîtrise de la langue française pour ne pas être cacophonique avec moi-même. Je ne vois pas en quoi vous pouvez nous dire que ce qui a été dit est faux.
Non, vous même dites c'est tellement très rassurant en annonçant l'arrestation et l'extradition du
journaliste. Je n'ai pas pour mission, comme porte-parole du gouvernement...
Que tout le monde attendait que vous puissiez le
présenter. Je n'ai pas pour mission, comme porte-parole du gouvernement, de paniquer les Congolais. Je crois que j'ai pour mission de leur dire les choses telles qu'elles sont et de les rassurer autant que possible lorsqu'il n'y a pas lieu de les paniquer. Qu'est-ce qu'on aurait voulu que je dise? Qu'il faut qu'on fasse la guerre au Congo-Brazzaville parce qu'on ne va pas extrader Oudjani? Ça aurait été un mensonge.
Non,
parce que nous attendons qu'il soit extradé.
Peut-être dire aux Congolais que la décision ne viendra pas du gouvernement congolais, mais plutôt du gouvernement d'en face.
Madame, nous parlons français. Je n'ai pas parlé en lingala.
Non, vous ne parlez pas.
Non, je regrette. Ceux qui adressent ces critiques maîtrisent le français comme moi. Lorsque vous utilisez le mot extradé, un homme qui sait ce que c'est la langue française comprend bien que c'est un autre gouvernement qui détient quelqu'un et qui doit encore décider de l'acheminer vers le gouvernement qui le réclame. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans toutes ces explications-là.
On vous accuse d'être trop sur la défensive. Vous vous attaquez beaucoup plus aux personnes qu'à leurs idées.
C'est un mensonge. Ça n'est pas conforme à mon caractère. Vous ne m'entendrez jamais attaquer une personne. J'ai fait des conférences de presse où vos collègues ont tout fait pour me faire dire le nom de quelqu'un. Enfin, je sais ce que c'est communiquer, je sais ce que c'est le respect qui est dû aux personnes, parce que j'exige qu'on me respecte. Jamais vous ne citerez un exemple où j'ai attaqué quelqu'un à dominem. Jamais. Ça, voilà. Au moins, c'est faux.
Voilà. Comment vous passez vos moments de détente, monsieur le ministre?
Je lis beaucoup. Je suis réellement un dévoreur de livres. Donc, je passe beaucoup de temps à découvrir les nouveaux ouvrages. Maintenant, je surfe beaucoup sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de publications sur Internet. Je ne suis pas un homme qui sort, qui va dans des restaurants. Je suis, comme je l'ai dit, un paysan. Mes heures de loisirs, c'est entre la lecture, l'internet et ma ferme. J'en ai même deux, puisque je suis fils de paysan. J'ai la fibre vraiment de la terre. J'ai une ferme à Menkao. Je passe pratiquement tous mes week-ends à Menkao. J'ai une autre ferme à Mampou, à plus de 200 km de Kinshasa. Et tous mes temps libres sont consacrés à mes activités. santé agricole.
Vous avez parlé des publications de lecture. Le titre de votre dernière publication est l'œil du cyclone. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage?
Cet ouvrage détaille un peu la lecture que moi je fais des événements tels qu'ils se sont passés depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions à la suite des négociations de l'accord global et inclusif. Et je m'attaque à certains principes, je m'attaque à certains lieux communs qui courent sur tel ou tel autre personnage. Je ramène à de plus justes proportions l'image que les gens se font sur d'autres gens que moi j'ai eu la chance de côtoyer de près, beaucoup d'anecdotes. Bref, c'est mon propre témoignage, c'est ma vérité sur ce qui s'est passé pendant cette période que j'ai revisité.
Monsieur Lombard-Mendé, nous sommes à la fin de notre entretien, des 30 minutes d'entretien. Un dernier mot à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment à travers toute la RDC et même à travers le monde.
Mais je voudrais d'abord remercier au CAPI de l'occasion qu'il m'a accordée. C'est très rare que je parle de ma personne. Je remercie les auditeurs pour l'attention avec laquelle ils ont suivi ces quelques témoignages. Je voudrais leur dire qu'il vaut mieux juger quelqu'un aux actes qu'il pose et ce métier de pensée que peuvent répandre des gens qui ont parfois intérêt à exagérer les côtés positifs ou à exagérer les côtés négatifs. Chacun a ses intérêts. Il vaut mieux être soi-même juge des caractères que nous voulons apprécier lorsque nous voulons approcher la vie, les œuvres, les actions, les apports d'un individu sur le déroulement d'un pays, de l'histoire d'un pays.
Merci, monsieur le ministre. J'ai oublié de vous souhaiter bon anniversaire. Vous avez fêté vos 58 ans la semaine passée.
Tout à fait, merci.
Ne retardez jamais.
Merci.
30 mois, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Lombert Mendé Omalanga, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Qui nous écoute, vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radioocapi.net. On suit deux programmes sur la fréquence de la paix.